Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour Un masque et la plume, consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec le Thalys de la critique où sont montés Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession, Michel Simon de Positif, Eric Neuf du Figaro et Pierre Murat de Télérama. On parle en effet du 15h17 pour Paris de Clint Eastwood, mais aussi des films de Woody Allen, Samuel Jouy, Xavier Legrand, Anthony Cordier, Mahamat Saleh Haroun, et à la demande de Xavier Le Herpeur, on parlera en fin d'émission des Tuches 3 dans le courrier de la semaine à propos...
Plus dur sera la tuche.
Du... Allez, tuche-toi. À propos du Spielberg, Théophile Vareil, étudiant en journalisme à Paris, nous remercie pour le bémol majeur apporté au dithyrambe de la presse sur Pentagon Papers, accueil enthousiaste qui est incompréhensible. Comment un film se désintéressant complètement du travail journalistique peut-il séduire toute la presse ? Un film qui n'est qu'un mélo pâteau auquel ses gros sabots hollywoodiens retirent tout intérêt pédagogique. Même désappointement de France comme à Sona. Quel film mou du genou que le Spielberg, des dialogues lénifiants, des scènes qui expliquent ce qui était déjà évident et des contre-plongées à vous donner la nausée, longueur, lourdeur, ajoute Christine Fink. Aucun suspense, c'est mou. La mise en scène, n'en parlons pas. Je me suis ennuyé du début à la fin. Mélis, qui habite Bordeaux, remercie le masque de se sentir moins seul après avoir vu Pentagon Papers, film attendu et plan-plan. Pour Marianne Neerland, Pentagon Papers a le mérite de montrer par contraste combien Les Hommes du Président et Spotlight sont, eux, de grands films. Aline Guichard est moins dure, oui, Hanks et Strip en font des tonnes. Oui, je sais que Spielberg est un bon gros cinéaste populaire, mais il sait sacrément raconter des histoires et j'ai dégusté avec plaisir et indulgence. Un bon film, ajoute Nicole Laguesse, pour les trop jeunes qui n'auraient pas vu Les Hommes du Président. Pour Julien Demangea de Bruxelles, c'est un Spielberg exemplaire de fluidité, de clarté et de sobriété. J'ai été scotché, ajoute David Favreau, Joao de Sainte-Savine. Spielberg tire la sonnette d'alarme en proposant de faire enfin confiance aux femmes, car oui, c'est un film au féminisme assumé et un hommage à Capra. À propos de la douleur d'Emmanuel Finkel, avis très partagé, Caroline de Paris est sortie bouleversée par ce film fort, intense, magnifiquement interprété par Mélanie Thierry, pour Martial Imbeau de Nancy. Il n'a pas eu le souvenir d'avoir vu ensemble aussi bien enlacés le cinéma et la littérature. Claire V, c'est un très grand film et la douleur qui se fait jour sur le visage de Mélanie Thierry montre tout de cette époque. Film honorable, en revanche, pour Patrick Marchal de Rouen, assez banal dans la phrase narrative, qui ne prend son envol que pendant la voix off sur le texte de Marguerite Duras. Et là, c'est la puissance de l'écriture. Et puis, il y a ceux qui détestent, il y en a plus que je ne pensais, comme Simon Bellassène de Paris. Entendre la voix off de Duras pendant 2 heures pour ne raconter que ses petites misères m'a été insupportable. Patrick Galli parle même d'un nanar à la sauce Duras. Film chichiteux, sans force ni profondeur. Même le traitement du retour des déportés déçoit, car il n'est pas à la hauteur des circonstances. Thierry Debétis de Draveil est en colère. « Mon cher masque emplumé, ça va pas la tête de survendre la douleur comme tu l'as fait. Si la première moitié est effectivement remarquablement tenue, la seconde est interminable. Elle se résume et quasiment à une lecture du livre en voix off. » Stéphane Cézac ne comprend pas notre enthousiasme. Il dit que voilà, la douleur, c'est le film. C'est ce que vit le spectateur. Et enfin, Loïc Boissel de Dombreval n'en revient toujours pas. Qu'est-ce que j'ai entendu au masque ? Film fascinant, bonheur absolu, miracle, magie. Et qu'est-ce que j'ai vu ? Un film prétentieux, des images floutées, une histoire bidonnée par l'auteur et le metteur en scène. Un texte délirant lu à longueur de film. Mais diable, calmez-vous, mesdames et messieurs, les critiques. Voilà pour le courrier. J'ajoute que j'ai reçu énormément de lettres et de mails à propos des panneaux de la vengeance et de In the Fed, que je suis obligé de garder pour une prochaine émission. Et on commence donc avec le 15h17 de Clint Eastwood. Je rappelle que le 21 août 2015, à bord du Thalys à destination de Paris, un terroriste djihadiste, Ayoub El-Kazani, armé d'une Kalachnikov, est neutralisé par trois amis d'enfance américains, l'étudiant Tony Sadler, les militaires Alec Skarlatos et Spencer Stone. En sauvant la vie de 500 passagers, ils deviennent des héros et sont décorés de la Légion d'honneur par le président Hollande, alias Patrick Braoudé. Clint Eastwood en a tiré un film, donc le 15h17 pour Paris, où il a demandé aux trois vrais héros de jouer leur propre rôle dans le film. J'ai eu le sentiment d'être, je ne sais pas si j'étais au-delà ou en deçà du cinéma, mais je n'ai pas eu un seul moment le sentiment de voir un film, Xavier.
Ah ben c'est clair, c'est pas un film, c'est rien. Je me rappelle qu'une fois, Michel Simon m'avait interrompu en me disant « on va pas perdre de temps à parler des mauvais films ». Je propose qu'on applique cette règle tout de suite. Ça n'a aucun intérêt. Mais vraiment, une fois de plus, comme dans celui-là, il n'a pas grand-chose à nous dire, pas grand-chose à nous raconter.
Si, il a beaucoup à dire sur l'héroïsme américain.
Oui, mais il faut le mettre en scène, justement. Il faut le valoriser, il faut retrancher ce qui pourrait gêner. Mais l'attaque du Thalys, le terroriste, il y en a quand même pour 3 minutes montre en main dans le film. Il y a quelques scènes où on voit le terroriste de dos qui tire sa petite valise dans laquelle il y a plein de kalachnikovs. On le voit terrassé, on le voit ligoté de manière assez SM, d'ailleurs, par les forces de police françaises. Je déteste pas la position, faudrait que je l'étudie. Mais pour le reste, ça n'a rien à dire. Alors comme ça n'a rien à dire, il faut bien nous raconter quand même quelque chose, parce qu'une heure et demie, c'est que les gens vont payer leur place, 10 euros, donc il se doit au moins de les remercier d'être venus jusque-là. Donc il va nous raconter l'histoire de ces gamins, enfin l'histoire surtout des deux militaires. L'étudiant, il en a rien à foutre. Hein. Les intellos noirs, c'est pas le truc de Clint Eastwood, donc vous êtes gentil, vous allez rester bord cadre. Il reviendra, il prendra le train, non, avec les copains. Bon, ben, ce qui l'intéresse, c'est quand même ces deux valeureux soldats, surtout le petit rondouillard, qui a tout donné à l'armée. L'armée lui a si peu rendu en l'empêchant de devenir ce qu'il voulait être. Mais il s'est musclé, il s'est endurci, il s'est valorisé, il aime Dieu. Ça se termine quand même par une prière in extenso, hein, sur les bancs de la gare d'Arras. Faut supporter. Donc, Dieu, l'armée, les armes, le gamin, il a un puricain élevé au bon grain au Kellogg's Cornflakes. Tout va bien, il est, alors, inattaquable, ce gamin. Bon, une fois qu'on a raconté ça, que sa maman croit en Dieu, que c'était pas un très bon élève, mais qu'il a trouvé quand même sa voie dans les États-Unis d'Amérique et la NRA, qu'est-ce qu'on nous raconte? Des vacances en Europe. Et là, les ch'tis à Marseille, c'est un bonheur à côté. Il y a de la dramaturgie, il y a du suspense, il y a des caractères, il y a des personnages qui existent. Ça n'a aucun... Mais la vacuité absolue.
La question à laquelle tu ne réponds pas, si tu me permets, c'est surtout pour quelle idée de faire jouer.
Oui.
Par ces trois.
Mais parce que c'est une caution supplémentaire.
Leur vrai rôle. Oui, mais sauf que ça n'a quel intérêt cinématographique ça a?
Ah, mais aucun, mais c'est comme.
Éventuellement comme documentaire et encore.
Mais c'est comme les mauvaises mousses de foie que t'achètes chez un discount dans lequel il est marqué avec 5% de foie gras à l'intérieur. Tu t'en fous. Je veux dire, ça ne change pas le fait que ce soit
c'est
absolument.
C'est pas le canard qui l'a fabriqué.
Dégueulasse. Mais parce que c'est une caution supplémentaire pour lui. Allez, les vacances en Europe, ça vaut le déplacement quand même.
Michel?
Oui, c'est un faux pas de Eastwood.
C'est dit avec élégance.
Comme ça. Non, mais c'est un faux pas. Mais c'est arrivé à Bergman, c'est arrivé à Buñuel, c'est arrivé à tous les grands metteurs en scène. Je peux te citer des films très médiocres de très grands metteurs en scène.
Ça ne nous empêche pas de dire que c'est une daube.
Mais c'est ce que je dis. Je pense que c'est un film raté. À mon avis, essentiellement sur un scénario qui est d'une faiblesse invraisemblable. C'est vrai, Xavier a raison de parler des visites de la place Saint-Marc, de Saint-Pierre de Rome, etc. C'est du travelogue sans aucun intérêt. Et effectivement, il n'a pas eu l'audace qu'ont eu Anthony Mann ou Jacques Tourneur ou d'autres qui ont fait des films qui se passent dans un train pendant 1h20 ou 1h10 à l'époque, on faisait des films très courts. Et tout se passait dans un train avec un sens du rythme formidable. Ici, il y a 8 minutes à peu près. Donc effectivement, il faut remplir. Alors moi, je trouve que l'idée était intéressante. Si elle n'était pas gâchée, mais si, c'est intéressant de prendre des personnages et de raconter leur vie et qui les amène à cet acte. Parce que on peut se moquer des Américains héroïques, mais ce sont des Américains héroïques. Comme il y a des Français héroïques dans certaines circonstances.
C'est l'image qu'on donne Eastwood qui est gênante.
C'est des gens qui, effectivement, ont risqué leur vie pour empêcher un massacre de 200 personnes dans le Thalys.
500.
Il faut le reconnaître. C'est pas, il n'y a pas besoin de faire de l'anti-américanisme à tout bout de champ, ça ne sert strictement à rien.
C'est surtout grâce à la Kalachnikov qui s'est enrayée.
Mais simplement, l'erreur du film, c'est qu'effectivement... Effectivement, il faut remplir ces 7h30. Et alors, on ne comprend pas parce que on voit ces gens à l'âge de 21 ans qui ont des flash forward, c'est-à-dire au lieu des flashbacks, on se projette en avant et sans aucune raison, on voit des passages dans le train. Ça n'a aucune raison. Mais sauf que le spectateur dans sa salle qui est venu voir le Thalys, au bout de trois quarts d'heure, il a toujours pas vu le Thalys, donc il faut en injecter quelques moments avant d'avoir une séquence finale qui, il faut le dire, est pas mal traitée.
C'est sûr que c'est
aurait pu être traité par 10 metteurs en scène. La scène d'action.
On va pas vendre beaucoup le Thalys à l'étranger. Non, mais
c'est
vrai
que c'est un film raté d'un metteur en scène qui n'a pas su faire le choix. C'est une débutante qui a écrit ce scénario, visiblement. Elle aurait dû travailler davantage.
Oui. Enfin, c'est un vieux cinéaste qui l'a filmé quand même. Éric.
C'est tellement mauvais que le meilleur passage, c'est les images d'archives avec François Hollande qui fait un discours à l'Élysée. C'est vous dire le niveau du film. C'est... Et avec Patrick Braoudet dans les plans de coupe qu'on aperçoit de dos. Mais sinon, c'est un film complètement nul. Mais c'est... On se pince en regardant ça. Au moins, il y a une morale, c'est que les héros, il faut les rencontrer dans le Thalys pendant 5 minutes. Mais il ne faut pas aller à l'école avec eux, il ne faut pas aller à l'armée avec eux, parce que ce sont 2 ou 3 vraies purges, ces gars-là, assommants. Partir en vacances à Rome ou à Amsterdam, alors ils boivent des bières, beaucoup de bières, ils font des selfies, beaucoup de selfies, et il ne se passe rien. Ils rencontrent une fille... Il la laisse tomber, les andouilles. Dans une boîte de nuit, il y a une serveuse qui en drague il ne fait rien du tout. On les retrouve le lendemain matin en train de ronfler ivre-mort.
Jamais avant le mariage aux États-Unis, Eric.
Mais quelle idée! On aurait dû rester dans le train tout le temps.
En plus, ils ont l'air très contents de jouer leur rôle, hein. Ils ont l'air très
mais
fiers.
Mais ils sont pas si mauvais que ça, d'ailleurs. On m'aurait pas dit que c'était eux. Bon, je connais des acteurs professionnels qui jouent encore moins bien. Hein. Mais sinon, c'est filmé comme une telenovela brésilienne. Et au moins, la SNCF, quand le train a du retard, il rembourse. Là, je demande à Clint Eastwood de me rendre les 12 € que ça m'a coûté.
Pierre. Les 3 acteurs sont vraiment très, très, très mauvais. C'est quand même un problème. Et la mise en scène de... Moi, je me suis fait engueuler par ce micro, par les lecteurs, les auditeurs, pour avoir dit que depuis quelque temps, Clint Eastwood était un tout petit peu moins bien que le cinéaste qu'il avait été il y a 30 ans. Parce que les derniers films, quand même, que ce soit Une Nouvelle Chance, Jersey Boys et American Sniper, qui a eu beaucoup de succès, je sais, mais c'était quand même pas du grand Eastwood.
À côté, et American Sniper, c'est du grand Clint Eastwood.
Oui,
à côté de ça,
c'est beaucoup moins bien qu'impitoyable que tout ce qu'il faisait avant. C'est
non, l'avantage de ce film-là, c'est que tu peux raconter la fin, là. Toi, tu peux le faire.
C'est un réalisateur un peu fatigué, un peu épuisé, qui tourne un peu n'importe comment, un mauvais scénario, avec 3 mauvais comédiens qui font une tournée en Europe. Alors, tu parlais de Venise avec des selfies et tout. En Allemagne, alors il y a une petite lueur d'humour que j'ai cru, mais je sais pas, c'est peut-être parce que je prête beaucoup au film. Quand il se dispute l'un des crétins, là, avec le guide allemand qui dit que Hitler est mort, voilà. Et alors, le guide allemand qui dit, les Américains, vous savez toujours mieux que tout le monde et je peux vous affirmer que c'est pas comme ça que ça s'est passé, Hitler et voilà. Et puis il sort du cadre en chantant Springtime for Hitler de Mel Brooks dans Les Producteurs. Il y a une espèce de note totalement incongrue dans un film qui est désuet, plat et nul. Voilà.
15h17 pour Paris, Clint Eastwood à la ramasse. Est-ce qu'il y a des réactions? Non.
Il faut dire que le film a été interdit à la presse. La Warner devait sentir le roussi.
Wonder Wheel de Woody Allen avec Kate Winslet, James Belushi, Justin Timberlake, un film, il faut le rappeler, dont la sortie a été sérieusement malmenée par les accusations portées à nouveau contre le cinéaste. Et oui, Michel, je raconte ce qu'il faut dire aussi, c'est-à-dire qu'à la télé, le 18 janvier, ne me regarde pas avec ces yeux-là, Dylan Farrow, 32 ans, je fais aussi mon métier, la fille de Mia Farrow, a répété que Woody Allen, son père adoptif, aurait abusé d'elle quand elle avait 7 ans. Résultat, de nombreux acteurs aux États-Unis ont dit qu'ils ne tourneraient plus avec lui. Et d'autres ont dit regretter de l'avoir fait. Ça a sérieusement entamé la carrière de ce film aux États-Unis. Avec Wonder Wheel, on s'éloigne, je te rassure, Michel, de l'actualité, puisque on est dans les années 50. À Coney Island, sur fond de parc d'attractions, Kate Winslet, c'est Ginny, une ex-comédienne devenue serveuse, qui rencontre Justin Timberlake, alias Mickey, maître nageur, qui rêve de devenir dramaturge. Seulement voilà, Ginny est mariée à James Belushi, qui est un gérant de manège alcoolo, chez qui sa fille, Juno Temple, poursuivie par des gangsters, vient se réfugier, et évidemment elle va tomber amoureuse du beau Timberlake. Vraiment, j'ai cherché en vain, en pensant à toi Michel, un peu d'humour dans ce film, très théâtral, qui dure 1h40, je n'ai pas trouvé. Pas trouvé d'humour, et j'ai même trouvé ce film assez éventé, mais je sais que tu vas tout de suite me contredire.
Je trouve que c'est un film magnifique, effectivement, qui est un film sombre.
Comme donc, tous les derniers films d'ailleurs de
quand
Woody,
Woody Allen fait une comédie,
défendu à
quand Woody Allen fait une comédie, on lui reproche de faire toujours le même film, ce qui est faux. Pour ceux qui ont vu les films de Woody Allen, il y a une invention permanente et des choix de sujets totalement différents à chaque fois. Mais quand il fait un film dramatique, on lui reproche de manquer d'humour. Il n'y a aucune raison qu'il y ait de l'humour puisque c'est un film sombre dans la lignée de Tennessee Williams et d'Eugène O'Neill. Il en a fait déjà plusieurs de films sombres, Blue Jasmine, Une autre femme, Intérieur, September. C'est pas la première fois. Et d'ailleurs, ce qui est passionnant, c'est de voir comment un auteur comique traite des sujets qui pourraient être aussi des comédies, mais qu'il traite sur un mode sombre. Alors moi, ce que j'ai trouvé magnifique dans ce film, outre l'interprétation, c'est le contraste entre la couleur de Vittorio Storaro, un des plus grands chefs opérateurs au monde, qui filme avec des rouges, des jaunes, des verts extrêmement crus, une sorte de technicolor presque accentué, dans une histoire qui est extraordinairement désespérée et sombre, qui est dans un décor à la Fellini. C'est Coney Island qui déjà a été traité par Woody Allen dans 3 ou 4 films. Et cette histoire de femme, d'ailleurs, évidemment, il y a des éléments autobiographiques. Cette femme qui se venge, qui va presque jusqu'à vouloir tuer une rivale qui est plus jeune qu'elle parce que son jeune amant, a préféré une femme plus jeune à une femme plus âgée. Donc, il parle de choses très intimes. Et je trouve que c'est un film, l'utilisation du décor, le contraste, encore une fois, entre la plage de Coney Island et puis, d'autre part, cet appartement avec ce grand salon magnifiquement rendu, comme dans une pièce, effectivement, de Williams. Kate Winslet est extraordinaire, et je trouve que c'est un film tout à fait bouleversant et un très beau film de Woody Allen.
Je suis très fasciné par la manière dont, quel que soit le film de Woody Allen depuis...
Pas du tout. When Rome With Love, j'ai pas...
En règle générale, je déçu. Parle du masque et la plume.
Mais quand vous parlez
quel
de Philip Roth, mais quand vous parlez de Saul Bellow ou de Philip Roth, est-ce que vous éprouvez le besoin de dire du mal régulièrement?
Mais vous n'admettez pas qu'on puisse ne pas...
Mais non, j'admire Woody Allen et j'admire sa production.
Je
viens de dire beaucoup de mal du film Eastwood, je fais pas la politique des auteurs.
Xavier.
Quand un auteur fait des films remarquables, c'est tout à fait normal que j'adhère à son cinéma. Je comprends qu'on n'aime pas Woody Allen, c'est tout à fait normal.
Alors, moi, vraiment, on ne peut pas me soupçonner de quoi que ce soit, parce que les derniers films de Woody Allen, vraiment, me tombaient des yeux, y compris celui qui avait valu à Cate Blanchett un Oscar que je trouvais effroyable, ou Jasmine, mais vraiment, à tout point de vue, sur l'écriture du personnage, sur le social de la femme, enfin, vraiment caricatural à l'extrême. Et bien là, ce soir, moi, je change de camp. Vraiment le temps d'un film, je me joins à Michel. J'ai beaucoup aimé Wonder Wheel, vraiment. Alors d'abord, moi, l'humour, je le vois. Il y a 2-3 répliques qui sont vraiment brillantes, comme c'est très bien le faire Woody Allen. C'est-à-dire qu'il contredit comme ça la noirceur qui n'a rien d'humour, un peu sombre, un peu mélancolique, mais il est là. Il y a quand même ce gamin qui fout le feu partout, qui est très, très drôle. Le gamin du premier mariage de Kate Winslet, qui est un incendiaire, c'est un canoviste, et qui passe son temps à allumer des incendies. Ça, c'est assez amusant. Cette femme qui a toujours mal à la tête, comme ça, et qui rêve de boire un whisky, mais qui ne veut pas sortir de la bouteille parce que sinon son mari va retomber dans l'alcool. Donc il y a une situation qui pourrait être effectivement très près du théâtre de Tennessee Williams, de Eugene O'Neill ou encore de Miller vu du pont, mais qui est sauvée quelque part, et il sauve ses personnages de la même manière, par quelque chose de viscéral, d'organique. Ils veulent prendre leur revanche sur la vie, ils veulent aimer, ils veulent être reconnus. Et il y a cet humour, il y a même des choses assez jolies qu'on relie évidemment dans un autre contexte, mais quand le père recueille cette fille qu'il ne voulait plus voir, qu'il avait reniée, qu'il avait conspuée, qu'il finit quand même par retrouver l'amour, l'affection qu'il avait pour elle, il y a une scène très tendre, très belle, il y a un dispositif théâtral, moi je trouve qu'il fonctionne complètement, parce que la mise en scène cinématographique le complète dans sa manière de traverser le décor, et Michel l'a dit, les lumières apportent une tonalité, une beauté crépusculaire, quelque chose là aussi qui est vraiment de l'ordre du
on
théâtre.
On a compris, troisième éloge va être signé Pierre Murat.
Eh ben la censure continue, hein.
Je suis désolé, Jérôme, mais moi je suis un fan de Woody, contrairement au cinéaste précédent, je trouve que ces trois derniers sont magnifiques.
C'est votre droit, on va pas y passer la soirée parce qu'il y a encore d'autres films.
L'homme irrationnel. Pardon.
Non, mais vas-y.
Oui, moi je trouve que c'est un film très très sombre, un des plus sombres qu'il ait fait, parce que ça fait longtemps qu'on devrait savoir que Woody Allen ne fait pas que des comédies ni des vaudevilles. Ça remonte à il y a 30 ans. Il fait des films de plus en plus sombres. Celui-là est terrible, mais sur des êtres désespérés et blessés. Et tu l'as dit, Xavier, qui cherche à s'en sortir et qui cherche par tous les moyens. Et ça, je trouve ça, c'est entre Tennessee Williams, bien sûr, et Dostoïevski d'une certaine façon, c'est-à-dire cette force, mais cette force de le désespoir et de trouver la lumière. Et la lumière est très importante dans le film de Storaro parce qu'elle permet justement de virer du jaune éclatant du lieu, du décor, jusqu'au bleu terrible qui envahit quelquefois le visage de Kate Winslet, ce qui fait que en un seul plan et en un seul discours, elle peut passer à la fois d'une beauté absolument radieuse à une caricature de Blanche Dubois de Tennessee Williams. Williams, où elle est dure, méchante, presque une Bette Davis. Et ça, c'est fait grâce au chef opérateur, mais à la cruauté aussi de Woody Allen, qui est de plus en plus cruel.
Et enfin, Eric.
Ah bah, moi, je trouve ça très triste, là, ce qui arrive à Woody Allen, parce que moi, j'aime pratiquement tous les films de Woody Allen, mais alors celui-là, il m'est vraiment tombé des yeux. Ça a été une souffrance, une tristesse. Cette photo de Storaro qui est dégoulinante, sirupeuse, c'est du marshmallow en fusion, un sundae fraise, vanille, chantilly. Alors de temps en temps, quand il fait nuit, c'est bleu.
L'expressionniste.
Oui, mais ça va pas du tout avec le sujet. Alors on se demande si c'est de la paresse, ce qui serait pas si mal d'ailleurs, mais je crains que ça ne soit de la fatigue maintenant. Il s'est glissé dans cette espèce de pièce à la Tennessee Williams avec Jim Belushi qui est mauvais comme un cochon, même s'il a enfilé le tricot de peau de Brando dans le tramway. Elle se dit, tiens, je vais avoir un Oscar, je vais faire Blanche Dubois, manque de peau, il arrive à Woody Allen, ce qu'on sait, elle est rayée des cadres. Bah, et le petit gamin qui est pyromane, le rouquin, cinéphile, on l'a déjà vu 100 fois mieux. Cette histoire est invraisemblable, le maître nageur...
Elle est invraisemblable tout en étant très attendue.
Mais oui, et puis aucun humour. Xavier, j'aimerais savoir quelles sont les trois répliques que tu as trouvées drôles, parce qu'on attend
on
ça
on n'a pas
en
besoin
vain.
D'avoir de l'humour dans un drame. Je ne vois pas pourquoi il faudrait qu'il y ait de l'humour, sous prétexte que c'est
mais
signé
Woody
Allen.
Mais on n'y croit pas du tout à ce drame, on ne croit pas à cet appartement, on ne croit pas à ces rapports-là, on ne croit pas aux mafieux qui courent après la gamine.
Et toi,
tout est artificiel. Woody Allen n'y croit pas, j'ai l'impression.
Mais vous ne pouvez pas admettre qu'on ne puisse pas aimer un film de Woody Allen.
Mais pas du tout.
Ah si, il y a la preuve.
Non,
non, mais quand on compare
ça à Blue Jasmine, il aime tous les films de Woody Allen sauf celui-là. Bon, voilà. Moi, j'aimais pas tout le monde.
J'en aucun non plus. Ça, c'était très bon. Voilà.
Non, mais là, cette semaine.
Mais enfin, Lubitsch a fait pratiquement. Maintenant, on parle de Lubitsch, c'est tous des chefs-d'œuvre. Mais à l'époque, Lubitsch se faisait aussi attaquer parce qu'il faisait des comédies. J'ai défendu au Masque et la Plume Billy Wilder, qui était traîné dans la boue, dont on disait que c'était un pornographe d'une vulgarité insensée. Maintenant, Billy Wilder est un classique.
Non, mais on a quand même cette semaine deux des meilleurs metteurs en scène américains vieillissants. Qui réalise deux très très mauvais films.
Ah non,
je suis désolé.
Il y a un qui réalise un très mauvais film et un autre un très bon film.
Wonder Wheel de Woody Allen. Des réactions, oui, sur ce film dans le studio Charles Trenet. Un micro vient vers vous, monsieur. Bonsoir.
Bonsoir. Je suis un peu partagé avec vos avis parce que je trouve quand même, c'est peut-être un beau film, mais tout est attendu. Absolument. Peut-être sur un plan cinématographique, c'est merveilleux, mais sur le plan de l'histoire, on s'attend à ça. Et ce qui me gêne beaucoup, si on pense. Enfin, un petit peu à la réalité de Woody Allen, ce qui me gêne beaucoup, c'est que c'est la femme, vraiment, qui est jetée aux orties. Hein, qui est vraiment, c'est elle qui a le mauvais rôle. Hein. Lui, le maître nageur, il s'en sort très, très bien.
Oh, pas du tout. Pardon, monsieur, mais c'est un sinistre imbécile, le maître nageur. Quand
oui,
même,
mais hein. C'est peut-être un sinistre imbécile, mais le mauvais rôle, c'est quand même la femme qui le tient. Et si on pense à la réalité de l'histoire de Woody Allen, c'est un peu gênant.
Merci. C'est une Bovary moderne.
Cette intervention, rien d'autre sur le Woody Allen. Non, jusqu'à la garde. Ah, le premier long métrage de Xavier Legrand, sacré meilleur réalisateur à la Mostra de Venise. Et c'est avec Léa Drucker, Denis Ménochet et un tout jeune garçon, Thomas Gioria. Franchement très prometteur. Ça commence à la manière d'un doc de Raymond Depardon sur la justice. Pendant environ, mais presque plus d'un quart d'heure, on est dans le bureau de la juge aux affaires familiales. Face à elle, un couple divorcé, avec ses avocats, se dispute la garde d'un garçon de 11 ans, c'est donc Julien. La mère, c'est Myriam Léa Drucker, le veut pour elle en exclusivité. Le père, Antoine, c'est Denis Ménochet, réclame sa part. Et la juge ne sait pas pendant ce quart d'heure quelle décision prendre. D'ailleurs, le spectateur non plus. D'ailleurs, c'est un film, entre parenthèses, où le spectateur travaille. Et il y a de moins en moins de films. Enfin, peut-être avec les tuches. Mais sinon, il y a peu d'occasions.
Il n'y a que le spectateur qui travaille.
Voilà, ça. D'autant que dans cette scène, la mère a un air hostile, sévère. Et le père, qu'elle accuse de violence, est presque touchant. Il y a un côté nounours triste. Et ça marche, puisque la magistrate accorde aux deux parents la garde partagée du garçon. Voilà, la suite que Pierre va vous raconter est une plongée dans l'horreur. Et on est passé, quoi, en 1h30, de Depardon au Kubrick de Shining. Je n'avais pas vu un premier film aussi maîtrisé depuis longtemps. Et quand je dis maîtrisé, je parle de tout, scénario, mise en scène, image et direction d'acteurs. Je suis fou de ce film jusqu'à la garde Pierre.
Tu as dit beaucoup de choses, Jérôme. Non, c'est ce qui est très très bien, c'est que cette ambiguïté que tu as soulignée dans le premier quart d'heure, tu dis dans la scène avec le jeu, se poursuit un long temps, pendant à peu près 40 minutes,
ouais.
Où en effet, le père est un peu brutal, mais on peut très bien se demander exactement si... Et alors, en plus, le scénario est très habile, puisqu'il nous montre quand même, lors d'une scène familiale avec la famille du père, que lui-même, sans doute, n'a pas eu une enfance extrêmement heureuse. Et donc, tout ça nous fait, en effet, aller presque plus avec le père qu'avec... Et brusquement, au bout de trois quarts d'heure à peu près, on dirait que le réalisateur choisit son point de vue, et à partir de là, il dit « Bon, maintenant, j'ai assez joué avec vous, avec le spectateur, avec le cinéma,
et maintenant, je vais jouer. » Et là, on tombe dans l'horreur.
Voilà, et on entre, et je joue autrement, je joue avec la mise en scène, l'horreur, l'angoisse, et on en arrive, en effet, à une fin que je ne révélerai pas, mais qui est extrêmement horrible, quoi, enfin, prenante. Ah, terrible, suspense.
Moi, j'avais la chair de poule, voilà. Ça m'est pas arrivé depuis très longtemps au cinéma.
Moi, je l'ai vu il y a assez longtemps, je connais, il y a deux personnes qui ont quitté la salle parce qu'ils ne pouvaient pas supporter.
Pas exagérer, mais...
Peut-être que ça
leur a rappelé des souvenirs. Il ne faut pas être un instant de divorce, en tout cas.
Voilà, mais enfin, en tout cas, voilà, donc, et Denis Ménochet, je le trouve absolument... Tout le monde est très très bien, le gamin est formidable.
Le gamin est
formidable, elle est très très bien, mais Denis Ménochet, sans doute, peut-être parce qu'il a le sale rôle, quand même, et je trouve que jouer avec aussi autant d'intelligence un rôle de méchant, faut quand même le dire, ben, chapeau, quoi, c'est très bien.
Éric ?
Même le titre est excellent, jusqu'à la garde, avec le jeu de mots sur la garde des enfants et le coup de poignard qu'on enfonce jusqu'au bout. Non, un premier film comme ça, on arrive là et on est saisi dès les premières minutes, là, ce quart d'heure dans le bureau.
Alors, quel prolongement d'un court-métrage qui était lui-même formidable.
Formidable, et qui avait été primé à Clermont-Ferrand et qui était...
Ça reste son premier long-métrage.
Qui avec les mêmes acteurs.
Absolument.
Il a même idée. Il a eu raison de prolonger ce court-métrage parce que là, cette scène où avec Léa Drucker qui fixe je ne sais quoi, la droite devant elle, Ménochet qui a les yeux baissés, qui a l'air d'un coupable et les avocates qui commencent à se crêper le chignon, c'est presque aussi bien que la séparation, peut-être même mieux là, ce début-là. Et ensuite, on se demande ce qui s'est passé. Est-ce que la femme qui interdit à son ex-mari de voir ses enfants a ses raisons? Est-ce que lui n'est pas victime? Et tout est comme ça dans le film pendant très longtemps. Le déjeuner dont parlait Pierre, là, chez ses parents à lui, où ils finissent par le foutre à la porte, on se dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Et c'est bourré d'inventions, ça ne relâche pas une seconde la tension. Il y a une histoire de ceinture de sécurité quand il garde son fils de 11 ans. C'est que le fils n'attache pas sa ceinture de sécurité et on entend le bip-bip qui se déclenche et c'est une façon à la fois de s'opposer et de dialoguer tous les deux. Et à un moment, comme le fils n'a pas le droit de lui dire où ils habitent désormais avec leur mère, le père a envie de le frapper et il cogne sur l'appui-tête de la voiture et c'est une scène qui vous saute à la gorge et tout est comme ça dans ce film jusqu'à la fin. Vraiment, premier film.
C'est 1h33, il n'y a pas une demi-seconde.
Non, moi je suis très ennuyé pour le réalisateur parce qu'il va avoir du mal à faire un deuxième film aussi bien.
Michel ?
Oui, c'est un film remarquable. Alors, tu as raison de parler de Shining, mais c'est un Shining filmé par Piala. C'est-à-dire que effectivement, mais on retrouve cet ogre, le personnage principal, c'est un ogre, c'est une sorte de colosse, mais en même temps pathétique, vulnérable. Et ce qui est très beau dans le film, c'est que, bien sûr, il est du côté de la femme, c'est la violence faite à cette femme et à ses enfants, mais en même temps, je trouve qu'il y a une sorte de pitié pour le personnage principal, un peu comme dans Shining, où Nicholson, à la fin, quand il est dans la neige, glacé, eh bien, on éprouve le sentiment de toute tragédie, c'est-à-dire un apitoiement pour la victime d'un destin. Et je trouve que cette objectivité du regard, et la façon aussi dont le personnage du mari est tout le temps regardé par les autres personnages, par la mère, sa femme, par son enfant, par le juge, etc., ça laisse une grande liberté au spectateur. Et il y a le mélange de Pardon était cité par toi, mais le mélange de Pardon et de Hitchcock, c'est-à-dire le mélange de thriller et de réalisme Piala, je trouve ça absolument éblouissant. C'est vrai que c'est un premier film, mais il y a beaucoup de premiers films formidables, il faut dire.
Oh, beaucoup plus qu'on ne croit.
C'est dur, c'est le septième. Très bon septième film, mais beaucoup plus
Xavier.
Rare.
On va gagner du temps. Vous avez tous dit effectivement l'excellence de ce premier film, l'intelligence du scénario, la caractérisation des personnages, la mise en scène. C'est peut-être pas tout à fait aussi bien mis en scène que Les Tuches 3, mais on s'en approche en tout cas.
Mais la grammaire est proche.
Ah, mais la grammaire est identique. Ça, disons les choses un tout petit peu. Mais bon, c'est normal, Olivier Baron, on est à son quatrième film, là, Xavier Legrand débute, mais il vient du théâtre et il y a une pertinence dans l'utilisation du hors-champ, du bruit insolite, tu l'as très bien cité tout à l'heure dans le bip-bip, par exemple, dans la voiture.
Parce qu'il n'y a pas de musique,
enfin, c'est vraiment...
C'est la musique des sons
On parle de la dernière scène, mais elle est amorcée pratiquement dès la première, d'ailleurs, parce qu'il y a un découpage et une façon de se regarder, de se mesurer, de se jauger, de se menacer dans le silence, qui est extraordinaire, alors qu'on est dans le sociologique, tu l'as très bien dit, hein. C'est une scène où on se dispute la garde des enfants, on est dans les coups bas, on est dans ça. Mais il y a une scène, à un moment, dans une cérémonie d'anniversaire...
Qui est incroyable, là.
Avec quatre
lieux... Intérieur
et dehors. Et puis un autre lieu qui est celui où serait la voiture d'une fille qu'on attend, qui est en retard, dont on ne sait pas ce qui lui est arrivé. On est déjà tellement conditionné qu'on se demande s'il n'est pas en train d'arriver quelque chose encore après. C'est-à-dire qu'il a une manière de jouer la topographie par les Hitchcock, mais c'est complètement ça. C'est-à-dire que c'est pas un décor, c'est deux, c'est trois, c'est quatre, et au moment où il va le resserrer, et moi j'ai cramponné mon fauteuil, quoi. J'étais mort de trouille. Et Denis Ménochet est génial parce que tu l'as dit, Michel, il a un côté presque victime, enfant, ogre meurtri, et Léa Drucker complémente complètement son jeu, parce qu'elle est à la fois la victime, mais elle a quelque chose de manipulateur, d'un peu dangereux, d'un peu ambigu, qu'elle mène magistralement jusqu'au bout de son interprétation. Non, mais des films comme ça, on en veut tous les jours.
Non, c'est un plaidoyer, je n'en dirai pas plus, pour la baignoire, et pas simplement pour la douche. Hein.
Oui, ça c'est vrai, on a envie d'être d'une baignoire et pas d'une cabine de douche.
Voilà. Jusqu'à la garde de Xavier Legrand, je ne sais pas s'il y a déjà des réactions sur ce film qui est sorti cette semaine.
Oui, bonsoir. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est peut-être l'émergence d'un grand cinéaste. Je l'ai lu dans Positif, effectivement, c'est la rencontre de Piala et de Hitchcock. Et il y a des gens qui ont fait aussi un rapprochement avec La Nuit du Chasseur. Alors j'espère qu'il ne fera pas qu'un seul film, parce qu'on sait que Charlton n'en a fait qu'un, il a été extrêmement critiqué, et il n'a pas eu d'argent pour faire d'autres. Et je voulais souligner effectivement le travail sur le son, que je n'avais pas entendu depuis, par exemple, The Square. Moi qui aime beaucoup Jacques Tati, effectivement, il y a un gros son. Vous parlez de la ceinture de sécurité, etc. Et il y a effectivement une mise en scène qui est formidable. Vous avez peut-être, ou je vais peut-être participer à ça, vous avez trop dit de choses. Il ne faut rien dire de ce film. Mais effectivement, je vais raconter l'histoire. Il ose quand même des plans formidables. Il y a un plan devant les toilettes à l'école qui est absolument génial. Je ne dirais pas ce qui se passe. Il n'est rien dit. Il n'y a que du son. Et il y a, vous avez vu, il y a un phénomène que je ne révélerai pas, qui est important.
Mais vous avez raison, monsieur, sur un point, c'est qu'effectivement, on devrait arrêter le résumé à la fin du quart d'heure inaugural qui est cette...
Et vous avez reparlé du début. Effectivement, c'est le fameux quart d'heure qui se passe dans le palais de justice où, de toute façon, elle ne donne jamais le verdict. Et c'est la mise en scène qui donne le verdict. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a une garde partagée. Et puis, c'est quand même quelqu'un qui a osé de faire un plan tout à fait noir. Je vais le dire, la fin du film est noire. D'accord. Et alors, ce qui est intéressant...
Pierre Murat va être jaloux. Hein.
Et ce qui est intéressant, jaloux, c'est que cet appartement qu'on ne voit pas, on l'a vu avant, visité pièce par pièce. Donc, bon, il y a vraiment une mise en scène extraordinaire.
Pour quelqu'un qui nous a reproché dans le
cas, je fais comme vous, mais effectivement,
je suis
c'est
ravi
un
de
film
savoir
très,
que
très étonnant.
Vous partagez notre enthousiasme pour jusqu'à
à suivre.
La garde. Gaspard va au mariage, le troisième film d'Anthony Cordier avec Félix Moati. Laetitia Doche, Christa Terret, Johan Eldenberg, Marina Foïs et Gaspard. C'est Félix Moati qui retrouve sa famille qu'il a longtemps fui à l'occasion du deuxième mariage de son père dans le Limousin. Mariage auquel il se rend par le train en prenant soin de se faire accompagner par sa prétendue petite amie Laura, qui est là donc Laetitia Doche de jeune femme avec... une bande de zadistes, elle s'était menottée à une voie ferrée. Gaspard lui propose de la payer pour qu'elle le suive jusqu'au zoo familial. Un vrai zoo, je dis bien un vrai zoo, avec de vrais lions, de vraies girafes, mais aussi avec les animaux que sont le père, qui est formidable, Johan Eldenberg, un veuf volage qui convole avec Marina Foïs, Colline, c'est Christa Terret, qui porte comme Xavier une peau d'ours
assez odoriférante, en tout cas on l'imagine, ou encore le frère gestionnaire, Virgile, c'est Guillaume Gouix, qui sort avec une tatoueuse, beaucoup de charme, un film foutraque, d'ailleurs très bien accueilli la semaine dernière, d'1h45. Eric ?
Ah oui, c'est une très bonne surprise, ça. On voit là-dedans que la famille, c'est un zoo. Les parents, ça. Les enfants, les frères et sœurs, tout ça, ce sont des animaux qui se chamaillent, qui se caressent, qui jouent ensemble. Et cette idée de faire rater son train pour Biarritz à Laetitia Doche, qui est vraiment, c'est la nouvelle Bernadette Lafont. Elle en a sa, la gouaille, le côté pimpant. Elle arrache toutes les scènes où elle apparaît. Et le petit Moati aussi est très très bon en face d'elle. Et quand on déboule dans cette province, enfin cette région, tu vas me dire, et qu'on voit ce zoo à moitié, ce Limousin.
Ce Limousin, c'est encore plus simple.
Il y a un côté à la fois Jacques Rosier, Noah Baumbach, Wes Anderson, Pascal Thomas, avec cette sœur qui est plus ou moins amoureuse de son frère qui revient, parce que lui c'est le fils prodigue aussi, et tous ces mots de passe qu'il y a dans les familles, les jeux de mille bornes l'après-midi, les petites inventions que lui avait eues quand il était gamin, des parachutes pour les bouchons de champagne, il y a une trouvaille formidable aussi, c'est de dessiner une grille dans le dos pour savoir à quel endroit, dans quelle case on a envie de se faire gratter. Et tout est comme ça dans ce film. C'est l'éloge du remariage raté, c'est l'éloge du mariage qu'on n'attend pas, c'est l'éloge des fausses fiancées. Et il y a un charme, une drôlerie, un naturel qui sont quand même assez sidérants.
Oui, moi j'ai souvent...
Et une absence de prétention constante. Et ça aussi, ça fait plaisir à voir.
C'est un mot que tu utilises volontiers, Pierre, qui est sympatoche. Il y a quelque chose de sympatoche.
Oh, mieux que ça, même.
L'atmosphère. Non, je parlais de l'atmosphère.
Ouais, il y a tout un art de vivre aussi là-dedans.
Et les animaux du zoo sont très bien, Pierre.
Ben voilà, c'est ça. C'est un film très sympatoche. mais vraiment, d'autant plus qu'il avait réussi. Il y a un film qui s'appelait Douche froide et raté, un deuxième dont j'ai oublié le titre, il vaut mieux l'oublier. Et là, c'est le retour de Anthony Cordier, donc c'est vraiment bien. C'est la morale que si on reste dans la famille, comme le fait Guillaume Gouix, ça se passe pas très 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 bien. Et si on part de la famille, comme Félix Moati, ça se passe pas très bien parce qu'on la regrette et qu'on l'oublie pas. Donc c'est toujours une catastrophe. Et on y revient, c'est encore pire. Et donc c'est comment se débarrasser et vivre avec la famille sans pouvoir jamais l'oublier, quoi, en quelque sorte. Et tous les personnages sont vraiment jolis, que ce soit le frère qui est resté, Guillaume Gouix. Et puis moi, Christa Terray, je trouve que c'est une comédienne formidable. Ouais. Qu'on découvre de film en film. C'est un film qui est charmant. Il faut peut-être pas le survendre.
Non.
C'est-à-dire
non.
que c'est un petit film, c'est pas aussi fort que certains films dont on a parlé là, mais
oui,
c'est vraiment très bien.
Le Salin dont on va parler, Xavier.
Oui, mais il faudrait pas s'excuser pour autant de le défendre.
Non.
Parce que je trouve que c'est une comédie extrêmement réussie. Toujours à la hauteur, effectivement, comme l'a très bien dit Eric Neuf. Décidément, je suis d'accord avec toi ce soir. Je suis un petit peu inquiet sur moi-même. À la hauteur de sa situation, de ses personnages. C'est foutraque, mais c'est très bien organisé en termes de mise en scène. Ça équilibre très, très bien la comédie de mots, de dialogue, de situation, de rapports conflictuels. Et puis, il y a effectivement une comédie de corps, de sensualité, de désir, d'inassouvi. C'est formidablement interprété. Je crois que c'est pas si facile que ça de réussir, justement, cette modestie élégante, constamment à la bonne hauteur. Il aime ses personnages. Il les accompagne tous. C'est vrai que le père est génial quand il prend des bains immergés dans un aquarium géant. Ça ose les corps, ça ose les désirs, ça ose la chorégraphie à un moment. Oui, moi aussi, j'adorais. Mais c'est un peu la forme de l'eau. Hein. C'est le Guillermo del Toro dont vous parlerez dans un mois. Ça ressemble presque à ça. Il y a une chorégraphie au milieu. Et en même temps, le film n'est jamais éparse. Il est très bien construit. Il est très bien.
Il est comme la maison.
Oui, voilà, biscornu, mais formidablement agencé. Et franchement, on n'a pas envie d'y aller dans cette famille quand effectivement Moati nous la présente. Et 1h40 plus tard, on y est bien, on y resterait.
Michel.
Oui, c'est dans le domaine de la comédie en France qui est souvent vulgaire, sans aucune inspiration.
Tu verras bientôt. Tu verras bientôt.
Oui, c'est vrai. On va voir. Les tuches et les chites, les schnites.
Non, les ch'tis. Pas les chites.
Michel, on t'a dit pas passer commande au micro, enfin.
J'espère, je veux à tout prix changer ce titre, voilà. Non, je trouve que il y a une sorte de...
Ah, je me tuche, là.
Il y a une sorte de burlesque tendre dans ces personnages, cette routarde fantasque, cette sœur qui s'enveloppe d'une peau de bête. Moi, j'ai pensé, dans la fantaisie, j'ai pensé aussi à Michel Deville, à certains films de Michel Deville.
C'est d'une grande... Ou de Broca dans Le Roi de cœur, par exemple.
Oui, c'est ça. C'est d'une grande élégance et vraiment, j'ai pris énormément de... Ça nous change de son premier film, qui était très bien, qui a vu le Deluc du premier film, Douche froide, mais dans un autre registre, il réussit quelque chose de très, très compliqué, parce qu'il retombe à chaque fois sur ses pieds avec tout cet entrelac d'intrigues qui s'entrecroisent, etc.
Gaspard va au mariage, Anthony Cordier, pas de réaction sur ce film. On va aller vite maintenant, parce qu'il nous reste peu de temps. Sparring, autre premier film de Samuel Jouy, avec Mathieu Kassovitz, que j'ai trouvé très convaincant dans ce film, et Souleymane Mbaye, champion du monde des superlégers, un film sur la boxe, ou plutôt sur les coulisses de la boxe. Kassovitz, il incarne ici un boxeur qui a perdu beaucoup de matchs, beaucoup plus qu'il n'en a gagné, une sorte d'anti-Rocky, avec un palmarès de défaites assez inégalé. Et avant de raccrocher les gants, il accepte de devenir, sur le ring d'ailleurs du casino de Deauville, le sparring partner d'un authentique champion, autrement dit son punching ball, son sac de frappe humain, pour épater sa femme. C'est Olivia Merilati du groupe The Do, qui d'ailleurs signe la BO, et sa fille qui est pianiste, avec un Kassovitz que je n'avais peut-être jamais vu depuis longtemps, en tout cas aussi mélancolique dans ce rôle donc de sparring partner. Xavier,
c'est le contraire de Jusqu'à la garde pour le titre, il baisse la garde mais il essaie au contraire de remonter. Moi j'aime beaucoup le film, vraiment, j'ai pensé au meilleur Ken Loach à certains moments, c'est-à-dire ce prolétariat d'un métier qu'on connaît mal, qui est un métier du sport, qui est un métier du sacrifice. Cet homme, ça aurait pu tomber dans le mélo gluant, ouais, comme ça, consensuel. Et le film est à l'image du héros, il se redresse constamment, il y a une dignité chez lui, dans sa famille, dans les gens qui l'entourent, une force, une vigueur, il a envie de se prouver, non pas qu'il est un boxeur professionnel, parce que malheureusement c'est derrière lui, mais qu'il peut encore une dernière fois être utile à cette passion qu'il a.
C'est surtout pour plaire à
pour plaire,
à
pour
sa
acheter
fille.
Un piano, voilà. Mais ce sont des pis-allers. Il y a un moment où on comprend qu'il a, ça fait longtemps qu'il a pu rembourser ou offrir ce qu'il s'était engagé à faire. Et il y a quelque chose chez un meurtri, mais qui veut effectivement se relever, se redresser. Et Kassovitz, c'est magnifique, ouais, quoi. Il est insupportable quand il fait de la mise en scène. Il est insupportable quand il donne des interviews. Et il est bouleversant là. Il faudrait qu'il soit peut-être plus souvent acteur.
Michel.
Oui. Alors moi, je suis partagé. Je trouve qu'à la fois, effectivement, Kassovitz est tout à fait formidable, et je crois que Samuel Jouy est un ancien acteur, est un acteur.
Mais il est acteur.
Comme Xavier, oui, Legrand, qui est aussi un acteur depuis 10 ans au théâtre. Donc ce sont des gens qui aiment les comédiens et ça se sent dans leurs films. Alors là, Kassovitz, je l'ai trouvé absolument brillant. Je trouve que les matchs de boxe sont très très bien filmés. Mais le film a rappelé tout de même un peu The Champ, le champion de King Vidor, que doit connaître Pierre Murat, avec Wallace Beery, qui était un boxeur célèbre, mais qui décide à remonter sur le ring pour faire plaisir à ses, pour être encore admiré par ses enfants. Il y a un côté un petit peu sentimental, un peu tire-larme dans ce film.
Ah non,
Pour moi, enfin, c'est mon sentiment, qui m'a empêché d'adhérer complètement. Mais cela dit, il y a beaucoup de qualités.
Pierre?
Ben, ça pourrait être tire-larme, c'est vrai, oui, ça pourrait
tout être. Tout est fait pour ça, même les relations avec la fille.
La fille, voilà, ça devrait être. Mais ça en effet, c'est entre Ken Loach et Eastwood. Il y a 20 ans, ça avait filmé ça très 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 bien, justement. Et moi, je suis d'accord, Kassovitz, c'est formidable. Et il y a une humanité chez le personnage qui empêche absolument que l'on pleure trop et de se livrer, enfin, que ça sombre dans le mélo. Je trouve que ça se tient, mais vraiment très 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 bien. Même les scènes de famille qui pourraient être, oh là là, il est en famille, là, là. Ben non, ça se passe très bien, les séquences de combat. Il y a un acteur. Non, c'est une, vraiment.
Avec une qualité de tatouage, je parle de Kassovitz, assez impressionnante.
Non, c'est vraiment bien.
Un mot,
non,
Eric.
Très très bien. Et surtout, il n'y a pas trop de boxe. C'est tous les deux.
Ben non, parce qu'il n'y a aucun combat. Hein.
Ouais, bah, un petit peu, on voit, mais.
Ce sont des préparations.
C'est pas l'essentiel, non,
mais l'entraînement.
C'est l'histoire d'un homme qui a envie de reconquérir sa dignité. Et c'est là où c'est fort. Et Kassovitz, c'est très très bien. Ah, bah, oui, mais moi, j'y arrive pas. Et, non, il y a une réplique qui résume un peu l'esprit du film. C'est il rentre la nuit après avoir fait un combat, et sa femme qui dort, ou sa fille, on ne sait pas, c'est dans le noir, lui dit « t'as gagné », il répond « presque ». Et tout est dit, oui, là-dedans, et Kassovitz incarne ce personnage déchiré, et il y a plein de trouvailles, il y a une scène dans les vestiaires avec ses deux partenaires, où l'un écoute « Partir » de Julien Clerc, et il y a un débat sur la musique de variété entre boxeurs, ben ça c'est du vrai cinéma.
Sparring Samuel Jouy, j'avais également inscrit une saison en France de Mahamat Saleh, Haroun, un film sur les réfugiés et autour d'un personnage qui a d'ailleurs malheureusement existé et qui est joué par Éric Ebouanet, et avec Sandrine Bonner qui est décidément abonnée au rôle de femme courage. On faudrait lui dire que aussi parfois la comédie existe. Vous me dites simplement si vous le conseillez ou pas.
C'est très reposant, il ne se passe absolument rien.
Oui. Ah oui,
c'est très très bien, c'est très sensible. Et Sandrine Bonner, je la trouve mais absolument remarquable, parce que elle est exactement ce que demande le réalisateur, c'est-à-dire la sensibilité. Et là encore, sans tomber dans
elle
la sensibilité.
Ces films, ces rôles-là,
c'est vrai. Mais là, elle est particulièrement bien.
On a envie de lui dire de temps en temps.
Oui, d'accord, mais quand même, voilà. Quand quelqu'un fait bien ce qu'il fait, autant le dire.
C'est vrai.
Même.
Mais c'est toujours noir. Michel.
Oui, c'est un beau film parce qu'il aurait pu être démonstratif, il aurait pu être agressif. Je trouve qu'il est, tout en douceur. C'est-à-dire qu'il nous parle. Non, mais il nous parle du sort des migrants, mais sans hausser le ton. Et c'est ça que la qualité du film, c'est cette sobriété qui rend le film beaucoup plus fort que si ça avait été un grand film de dénonciation sociale.
Xavier.
Eh ben, moi, j'aime beaucoup. Je suis désolé puisque tu as fait la grimace pendant les compliments qui étaient adressés par mes petits camarades au film. C'est pas un film sur les migrants, c'est un film sur un migrant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il lui donne enfin corps. C'est un type qui essaye coûte que coûte de se relever, de protéger ses enfants, de leur offrir un toit, de leur offrir une scolarité, qui est épuisé parfois, et je trouve que la mise en scène est très près, justement, de son comportement organique. C'est pas un film de réflexion, parce qu'il n'a pas le temps de la réflexion, il n'a que le temps de l'action, que le temps de contrer ce qui lui arrive, et du coup, le personnage de Sandrine Bonner est vraiment un havre de paix, un îlot comme ça dans lequel il se réfugie, mais qui n'est que fugace, qui n'est que momentané, et la fin est magnifique. Moi, vraiment, elle m'a bouleversé, je ne la raconterai pas, même si j'ai très envie, mais moi, je soutiens.
C'est une saison en France, et c'est donc de Mahamat Saleh Haroun, qui est cinéaste, mais qui est aussi maintenant le nouveau ministre tchadien du tourisme et de la culture.
Pourquoi crois-tu qu'on l'ait soutenu ?
Voilà, je sais bien. Mais d'ailleurs, tu as un voyage qui est prévu. Et je crois que tu as un bel hôtel, d'ailleurs. Et on termine donc, je le disais à la demande, mais ça va être très rapide, de Xavier, avec Les Tuches 3 d'Olivier Barou, avec, c'est pas la peine de vous le rappeler, avec Jean-Paul Rouve, qui est donc devenu président de la République avec 57% des voix. Et il est toujours avec Cathy Tuche et Isabelle Nanty, première dame de France. Il y a toujours Mamie Claire Nadeau. Il n'y a rien à dire, mais pourquoi voulais-tu absolument, Xavier, qu'on en parle ce soir ?
Parce qu'à cause de toi, puisque tu avais déjà inscrit les deux précédents volets des Tuches au masque, j'ai vu Les Tuches 1, Les Tuches 2, et que je voyais venir le fait de manquer le troisième épisode. J'en étais effectivement fort meurtri, donc j'étais supplié effectivement d'inscrire Les Tuches 3 ce soir au programme. Et en même temps, c'est vachement intéressant parce qu'Olivier Barou, donc en trois films, montre des Français moyens, on va dire très très moyens, qui n'en foutent pas une rame, qui n'ont jamais travaillé de leur vie et qui gagnent beaucoup d'argent. Mais c'est Olivier Barou. Son scénario, il n'est pas travaillé du tout. C'est un fumiste de première. Il n'y a pas une blague, un gag, une situation qui soit digne de ce nom et digne de la comédie registre dans lequel il s'inscrit. C'est une insulte aux comédiens qu'il emploie. Alors, dans les blagues, j'en ai quand même noté deux. Ah, c'est un homonyme. Ah non, il aime les femmes. Non, alors si vous riez, Olivier Barou va nous faire un numéro 4. Alors vous êtes gentil, mais vous vous retenez quand même. Hein. Et à un moment, ils vont chez Angela Merkel, puisqu'elle est présidente de la République française. Angela Merkel, bien sûr, est interprétée par un homme. Ah ah, grosse finesse. Et à un moment, elle dit à Isabelle Nanty, biteux. Réponse de Isabelle Nanty, biteux. Ah, ça sent la partie fine. Voilà. Alors fin, ça ne l'est jamais, vulgaire, tout le temps, poujadiste, éternellement. Je ne sais pas pourquoi les gens y vont, peut-être parce qu'il fait froid, peut-être qu'il y a de la
clim. Tu sais que c'est un succès à nouveau quasi historique. Hein.
Je sais.
Oui, Olivier Barou me détester. On peut l'annoncer.
Là, il va me haïr, mais s'il en fait un quatrième, c'est à mon tour de le haïr.
Non, on peut enfin, suivre.
Tu parles pas quand même de la rentrée de la frite au palais de l'Élysée, qui est un...
Ah, mais je ne parle pas du fils, qui est gay, qui est complètement stupide et qui insulte Bob l'Éponge. Parce que c'est surtout ça, c'est qu'au bout de 10 minutes, il se moque de Bob l'Éponge. Et comment voulez-vous que je sois des bonnes conditions après?
L'Académie des Césars a créé oui, cette année le prix du public. Oui. Ce que ni Hollywood n'a jamais fait, ni les Anglais, ni les Italiens, ni les Espagnols. Le prix du public, c'est-à-dire qu'il y aura, César du meilleur. Comme Danny Boone n'a jamais eu le César qu'il mérite, eh bien, on a créé un prix public pour lui donner un prix. Donc cette année, c'est déjà Danny Boone qui l'a. Et l'année prochaine, ce sera Les Tuches 3, puisqu'il y aura 5 millions de spectateurs probablement. Ce sera le film le plus populaire de l'année. Alors moi, ce qui m'embêtait, c'est que j'avais pas vu Les Tuches 2. Donc j'ai craigné de ne pas comprendre.
Tu peux pas comprendre le 3.
Voilà. Mais
la subtilité sur les personnages qui ont dû
t'échapper. J'ai tout de suite compris. C'est-à-dire c'est le même poujadisme, le même mépris pour les intellos, la laideur cinématographique, l'image est absolument médiocre, les comédiens sont à côté de leur plaque. Et c'est un film vraiment... Alors non, le phénomène tout de même unique, nouveau en France, et je trouve que Télérama et Le Nouvel Observateur ont sauvé l'honneur de la presse française, je ne dis pas ça pour vous faire plaisir à vous deux qui en faites partie, c'est qu'il y a 4 étoiles dans le monde, il suffit de regarder Allociné. Hélas pour toi, mon cher Eric, il y a 4 étoiles dans le Figaro.
Pendant la démolie dans le journal.
Il y a 4 étoiles dans les Inrecuptibles, c'est-à-dire que la presse elle-même va au-devant, c'est-à-dire qu'avant, il y avait le populisme, et maintenant, voilà que la presse, disons, cinéphile, emboîte le pas, et donc, c'est un flou irrésistible, on a envie d'arrêter ce métier.
Éric ?
Ben, je n'avais pas vu les deux premiers, alors j'ai du mal à resituer l'œuvre dans son contexte. Mais... Non, mais c'est une pure honte. Je sais qu'on a vu un peu n'importe quoi à l'Élysée, mais il y a des limites. Et ce film, c'est vraiment... Non, mais c'est un film graillonneux. Il mange des frites tout le temps.
On se sent sali
en sortant. On a envie de prendre une douche. C'est vraiment dégueulasse. Et le problème en France, je sais pas, il y a quelque chose qui cloche. C'est pas que Marine Le Pen soit au deuxième tour, c'est que les gens se précipitent voir ce truc-là. C'est pour moi, ça, c'est gravissime. Et ça donne envie d'aller habiter ailleurs.
Pierre,
je me suis arrêté au 1, moi.
Par principe.
Je me suis arrêté au 1.
Parce il avait que peur le... d'être déçu après.
Ben voilà, voilà, c'est ça, voilà, absolument.
Les Tuches 3, c'est Olivier Barou. Pas de réaction, j'imagine.
Il y a
Olivier
Barou
dans la salle.
Si, si.
Et on va passer au conseil pour terminer. Pierrot.
Alors, un DVD consacré à Fellini Roma qui vient de sortir chez Rimini. Alors, le film, on le connaît et il n'a vraiment, on peut le revoir et le revoir sans cesse parce que c'est magnifique. La dernière apparition d'Anna Magnani, le métro, enfin, les fresques du métro qui s'évanouissent, le défilé des curés, c'est génial. Et en plus, il y a plein de bonus et notamment un documentaire de presque 3 heures où on voit Fellini au travail. Et vraiment, rien que ça, c'est un bonheur inouï.
C'est chez
Rimini.
Rimini. Le conseil d'Éric.
Vivre ensemble, un film d'Anna Karenina qui sort mercredi, qui date de 73, qui est vraiment une rareté. Moi, je ne l'avais pas vu. Et c'est un film tellement nécessaire du cinéma à la première personne qui se passe à Saint-Germain-des-Prés et à New York. C'est quelque chose entre mort et la maman et la putain. Et c'est le premier film réalisé par une actrice française.
Et pas qu'elle va sortir un album de chansons.
Oui, de reprises inédites, j'ai pas très bien compris.
Reprises inédites. Les
reprises inédites, c'est un peu... Je vous dis donc en camarade. Mais...
un truc bizarre, mais le film est avec Michel Lancelot, qui est un journaliste d'Europe 1, est vraiment une curiosité. Et il faut voir ça, c'est le cinéma français indépendant des années 70, fait avec des bouts de ficelle, et on sent vraiment la nécessité qu'avait cette fille de tourner ce film-là.
Mon conseil, c'est un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, et ce n'est pas que pour le sujet, bien sûr, j'entends déjà les ricanements. Il s'appelle Centaure, et c'est signé d'un Kirghiz qui s'appelle Aktan Arim Kubat, qui est sur un voleur de chevaux, qui dérobe donc des pur sang à leurs propriétaires fortunés pour les monter et leur rendre la liberté. Mais c'est surtout l'éloge d'une civilisation équestre que le centaure, donc cet homme, raconte à son jeune fils pour aussi, ça c'est très important dans le film, résister, j'allais dire, au galop, à l'intégrisme islamique. Tu l'as vu aussi, Xavier, ce film ?
Ah oui, j'aime beaucoup ce film.
C'est un beau film.
Ah, je suis comme toi.
Le conseil de Michel.
Alors, c'est un film italien de 1960 de Antonio Pietrangeli. On est en train de redécouvrir l'œuvre de Pietrangeli qui a fait 10 films, qui était un peu plutôt méconnu, mais qui est un grand cinéaste, surtout un cinéaste de la femme. Tous ses films parlent de la femme, et de la femme souffrante, de la femme aliénée. Ici, c'est donc un film interprété par Simone Signoret, Emmanuel Riva, Gina Rovere et Sandra Milo. Donc 4 actrices, 2 italiennes, 2 françaises, c'est l'époque des coproductions, il y a Marcello Mastroianni, et c'est juste après une loi en Italie qui avait interdit les maisons de rendez-vous. Et donc ces femmes s'organisent, ce sont des putains, et qu'elles s'organisent pour avoir leur propre entreprise, mais en même temps elles savent que c'est sans issue. Donc c'est un film sur la femme vraiment qui se retrouve dans une situation inextricable, c'est remarquablement interprété, et c'est un film à la fois mélancolique et en même temps dramatique.
Et Xavier.
Et comme nous filmons maintenant nos conseils, j'ai conseillé Coupé, un roman chez Sonatine, un polar de 1937 pour le site internet. Et du coup, j'en profite. Je vais recommander Ni juge ni soumise de Jean Libon et Yves Inan, qui étaient des réalisateurs de striptease et qui ont suivi pendant 3 ans une juge féministe et empathique de Bruxelles. C'est salutaire, c'est drôle, c'est une réflexion passionnante sur la justice. C'est un tout petit peu comme si les Monty Python et Depardon avaient fait un film ensemble. Elle est géniale. On l'adore. Et le film est extrêmement narquois, incisif, mais jamais caricatural ni méchant.
Comme les Tuches, quoi. Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Xavier Le Herpeur, Michel Simon, Pierre Murat et Éric Nehoff pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin. Avec la collaboration de Lisiane Selam et ce soir au Charles Trenet, à la technique Pascal Bénard, Philippe Thibault, Emmanuel Armingue. La réalisation était de Didier Lagarde. Et vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, c'est le jeudi 22 février. Je vous attends à 20h au studio Charles Trenet pour deux émissions. L'une consacrée au 28e prix des auditeurs du Masque et la Plume et l'autre à l'actualité du cinéma. Dans une semaine, on parlera de littérature à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.